France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le triomphe surprise d'un jeu vidéo français à Los Angeles. Sacré meilleur jeu de l'année, il est made in Montpellier. On vous raconte cette réussite et ses implications économiques également dans un instant. À suivre encore, la vaccination contre la dermatose nodulaire qui s'étend, la mobilisation des éleveurs bovins également. Nous verrons que la Turquie a réussi il y a quelques années à en venir à bout, mais avec une autre méthode. Les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat, la climatologue Françoise Vimeux sera notre invité. Le tunnel du Mont-Blanc qui rouvre cet après-midi après 3 mois de fermeture pour travaux. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Et ce n'est pas fini.
Ah non, ça commence tout juste. Il faut rénover une bonne partie de la voûte de cet ouvrage vieillissant, emprunté chaque jour par un millier de poids lourds entre la France et l'Italie. Vous l'entendrez, ce chantier majeur s'étalera peut-être sur 17 ans.
A tout de suite pour vos explications et puis nous vous raconterons le sauvetage miraculeux d'une mère et de sa fille dont la voiture a fini hier soir sa course dans la piscine municipale de la Ciotat. À partir de 13h30, la directrice générale du parc Astérix est notre invitée, deuxième parc d'attractions de France, qui vient d'annoncer des investissements sur son site français, mais aussi l'ouverture d'un second parc en Allemagne. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Virginie Troussier est la voix des glaciers, un projet artistique pour faire entendre le son des glaciers qui fondent, d'une nouvelle alerte sur le réchauffement de la planète. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse Diane Tell demande « Mère » de Françoise Hardy.
Quand j'entends cette chanson, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et j'ai envie de me prendre un verre de vin et puis voilà, de repenser ma vie, les larmes aux yeux. Ouais, c'est vraiment une chanson qui m'habite, ouais. Elle est à moi, cette chanson. Elle est pour moi.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est l'histoire d'un petit studio de production, Montpellierin, une trentaine de salariés, qui fait la nique au mastodonte du jeu vidéo. La nuit dernière, le studio français Sandfall Interactive a raflé 9 des 11 récompenses auxquelles il prétendait aux Game Awards. C'est l'équivalent des Oscars pour les jeux vidéo. Cérémonie suivie par des millions de personnes. Tout cela grâce à un jeu vendu à 5 millions d'exemplaires depuis le printemps, le jeu Clair-Obscur. Bonjour Olivier Bénis.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste jeux vidéo. C'est un coup de projecteur pour un secteur très dynamique de notre économie. On va y venir. Mais c'est d'abord un succès complètement imprévisible.
Oui, déjà parce que c'était pas du tout l'objectif de ses créateurs. Sandfall Interactive, c'est un petit studio. Il loue un manoir à Montpellier en location, donc une des capitales du jeu vidéo. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était faire le jeu auquel ils voulaient jouer dans un genre un peu niche. Le jeu de rôle japonais au tour par tour. C'est pointu. Ils ont joué de manière habile avec cette image de petit studio so Frenchy, allant jusqu'à se permettre d'habiller les personnages du jeu avec une marinière, un béret rouge et une baguette sous le bras. Des clichés qu'ils ont assumés jusque sur la scène des Game Awards, notamment avec le fondateur Guillaume Broche déguisé comme ça.
Un énorme merci aux joueurs pour vos reprises, vos dessins, vos débats interminables sur quelle fin est la meilleure. C'est merveilleux à lire. Merci beaucoup. Vous avez changé nos vies, vous avez changé la vie de notre studio. Donc merci et pour ceux qui viendront après.
Voilà, pour ceux qui viendront après, c'est le cri de ralliement des héros de Clair Obscur qui a bénéficié, au-delà de la belle histoire, de l'externalisation de certains aspects techniques, les animations en Corée du Sud ou les tests en Pologne. Mais les bonnes idées avec les bonnes compétences ont permis, tout simplement, d'offrir le jeu promis.
Cela dit aussi, Olivier, quelque chose de l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui.
Oui, une industrie qui pèse plus de 220 milliards de dollars dans le monde, c'est presque 5 fois plus que le cinéma, 4 milliards d'euros et 10 000 emplois directs en France, mais un secteur trop concurrentiel, en crise, où l'on se bat pour capter l'attention des joueurs. Et Clair Obscur a proposé une recette inédite entre les très grosses productions et les petits jeux indépendants, en comptant avant tout sur leur amour du jeu vidéo. Les créateurs sont des passionnés, ils ont eu un bouche à oreille de passionnés, avec des vidéos virales de gens qui pleuraient devant certaines scènes, des reprises des musiques du jeu, comme celle que vous entendez. Au final, les Game Awards récompensent presque autant la qualité du jeu exceptionnel que la vague d'enthousiasme incroyable qu'il a suscité.
Merci Olivier Bénis de nous avoir raconté l'histoire, la success story de Sandfall Interactive. Autre visage de l'industrie et de l'économie française. En difficulté celui-là. Le groupe Brandt, placé hier en liquidation judiciaire, 700 emplois supprimés. a priori la fin de l'histoire. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour Jérôme.
Même si le ministre de l'Industrie parle ce matin d'imaginer un nouveau projet, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, à ce stade, le gouvernement a un projet clé en main. Hein. Sinon, eh bien, il l'aurait présenté hier au tribunal. Mais l'État veut se donner les moyens d'en trouver un et d'éviter ainsi que le site laissé vacant par Brandt ne se transforme en friche industrielle. Si vous laissez tout en plan hein, pendant 10-15 ans, vous tombez dans le dur de la désindustrialisation, vous laissez partir les savoir-faire. Or, il faut absolument les retenir, quitte à faire émerger même plusieurs projets, espère-t-on à Bercy, par des réunions ces prochaines semaines avec les élus locaux, trouver la potion qui pourrait donner envie aux banques de s'investir. Elles qu'on attend toujours, s'agace un conseiller, ces banques qui n'ont pas suivi le projet de scope des salariés, aussi parce qu'il s'est monté en 15 jours dans la précipitation et Dieu sait qu'il faut parfois du temps pour convaincre. L'idée au ministère de l'Industrie est donc de faire les choses proprement en prenant son temps, tout en évitant que le soufflet retombe. En gros, surfer sur la dynamique enclenchée ces derniers jours avec les salariés et ce pour leur offrir de nouvelles opportunités.
Maxime Debs pour ses précisions. Le face-à-face a été violent la nuit dernière en Ariège au bord de Sur-Arize, entre les forces de l'ordre d'un côté, les agriculteurs de l'autre, plusieurs centaines d'éleveurs bien décidés à empêcher l'abattage d'un troupeau dans lequel un cas de dermatose nodulaire avait été détecté. Ils ont fini par lever le camp dans la nuit. Quatre personnes ont été interpellées, des membres de l'ultra-gauche, selon le ministère de l'Intérieur. Et ce matin, sur place, les services vétérinaires ont pu entrer dans la ferme pour abattre les 207 vaches. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
Et la mobilisation des agriculteurs dans le sud-ouest s'étend.
Oui, cette nuit, dans le Lot-et-Garonne, des agriculteurs de la coordination rurale et de la confédération paysanne sont allés déverser du lisier, des pneus devant la préfecture à Agen. En Aveyron, des blocages de l'autoroute A75 dans les deux sens, du fumier aussi dans les rues de Bordeaux, Périgueux ou Limoges. Et puis mobilisation aussi à venir ce soir, un peu là où tout a commencé, en Savoie, à Chambéry.
Le sud-ouest où on recense de nouveaux cas et le gouvernement étend les zones de vaccination.
Oui, la dermatose nodulaire, souvenez-vous, elle a fait sa première apparition en France à la fin du mois de juin dernier dans des élevages de Savoie. Et puis elle s'est répandue dans sept autres départements. On décompte aujourd'hui 109 foyers dans 74 élevages. Plus de 3000 bovins déjà abattus. La politique en vigueur, hein, c'est la mise en place de zones réglementées de 50 km autour des exploitations touchées, visant donc à éviter la zone de diffusion de la maladie où la vaccination est systématique, tout comme l'euthanasie dans l'ensemble du troupeau, dès lors qu'un cas de dermatose est découvert. Systématisme dénoncé par les agriculteurs.
Merci Erwan Chassin. Eh bien justement, cette méthode est-elle la bonne? Intéressons-nous aux recettes qui ont été employées par d'autres pays par le passé qui ont fait face à cette maladie. C'est le cas de la Turquie, violemment touchée il y a 10 ans. Depuis, les cas sont beaucoup moins nombreux. Anand Lauer, vous êtes notre correspondante sur place. La méthode retenue par les Turcs était un peu différente de la française.
Entre 2014 et 2016, la Turquie a été durement touchée par la dermatose nodulaire contagieuse, avec plus de 1500 foyers déclarés pendant ces 3 années à travers l'Anatolie. Pour endiguer l'épizootie, les autorités d'Ankara ont mis en place une stratégie hybride. L'euthanasie systématique des animaux malades, couplée à des mesures de stricte quarantaine et à des campagnes massives de vaccination. Pas d'abattage de troupeaux entiers donc, contrairement à la méthode qui prévaut actuellement en France. Les quarantaines en revanche ont concerné ces années-là des centaines de milliers de bêtes en Anatolie, puisqu'un cas dépisté suffisait à ordonner l'isolement de tous les bovins du département. Dans un rapport publié en 2023, le ministère turc de l'Agriculture estime que la méthode a porté ses fruits. Le nombre de foyers dépistés a diminué d'un tiers entre 2014 et 2015, puis de moitié l'année suivante. Ces 7 dernières années, le pays n'a pas affronté de résurgence notable de la maladie. Les campagnes de vaccination contre la dermatose ont continué, souvent associées à celles contre la fièvre aphteuse, qui a fait des ravages ces derniers mois dans les troupeaux turcs. Un Ankara, Ankara, RFI pour France Inter.
Voilà des images qui heurtent par leur violence et qui interrogent aussi au moment où le ministre de la Justice demande le renforcement de la sécurité en prison. Une rixe entre détenus à la prison de Nantes, c'était début novembre, un détenu est en sang. Bonjour Féline Leloir-Duhaut.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et des surveillants qui manifestement tardent à intervenir.
Oui, un homme nu et couvert de sang traîné au sol, une rixe qui dégénère en quelques minutes entre les deux groupes et en effet, aucun surveillant n'apparaît sur ces images révélées par BFM TV. Yann Hervé est délégué du syndicat pénitentiaire UFAPU de sa justice et agent à la maison d'arrêt de Nantes.
Le personnel n'intervient pas dans pareilles circonstances, déjà d'une, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Vu le nombre de personnes détenues qui sont sur les cours de promenade, il serait compliqué de mettre un dispositif d'urgence réactif en moins de 5 minutes d'une autre manière. On nous apprend aussi que ça peut être un moyen de diversion, histoire de nous attirer. On se retrouverait en grave danger, en fait.
Une rixe qui serait, selon lui, liée à un trafic de stupéfiants au sein de la prison et à une possible rivalité entre les deux bandes. Et ce qui le surprend, c'est surtout la violence des faits.
Enfin, moi, je suis à Nantes depuis 2002. On n'a jamais eu des faits aussi virulents que ce qui s'est passé. Alors, autant avant, c'était violent, mais à coup de poing. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les armes artisanales, les couteaux céramiques qui traînent. Donc, le danger, il est permanent.
Et dans cette rixe, 5 détenus ont été blessés. 4 ont dû être hospitalisés face à ces images. Le parquet de Nantes annonce l'ouverture d'une enquête.
2 nouvelles plaintes dans le dossier des violences commises à Notre-Dame de Bétharram. 10 nouvelles victimes ont déposé plainte ce matin à Pau, il y en avait déjà 200. L'une de ces nouvelles plaintes n'est pas prescrite, indique Alain Esquer, le porte-parole du collectif de victimes. À Besançon, l'anesthésiste Frédéric Péchier connaîtra la peine demandée à son encontre. Aujourd'hui, le réquisitoire se poursuit. Frédéric Péchier est jugé depuis 3 mois pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans 2 cliniques de la ville et non à l'hôpital, comme j'ai pu le dire hier par erreur. Il nie les faits. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès pour Inter et le dossier est tellement volumineux, Jean-Philippe, que les réquisitions s'étalent sur 2 jours et elles ont repris ce matin.
Oui, parce que les avocats généraux examinent un par un les 30 cas d'empoisonnement que Frédéric Péchier a réalisé pour nuire à ses collègues, développe-t-elle, comme avec la docteur Arbé, 30 ans de carrière sans le moindre incident. Et cet anesthésiste va subir coup sur coup 6 accidents cardiaques de patients, tous médicalement incompréhensibles. Alors évidemment, à la clinique, on s'interroge, ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est certainement parce que la docteure n'est plus compétente. Elle est retirée des blocs. Et paf, poursuit l'avocate générale, un 7e accident cardiaque sur un patient qu'elle traitait pour une banale opération de la cataracte. Le docteur Arbé quitte l'établissement sur le champ, couverte de honte, comme une malpropre, une agonie professionnelle, résume la magistrate, rappelant que, depuis, la docteure est tombée dans la dépression et n'a même pas pu venir témoigner devant la cour d'assises. Le patient, lui, est décédé, assassiné par le docteur Péchier, en conclut l'avocate générale, empoisonné à la seringue. Une véritable mise à mort, les yeux dans les yeux, juste pour se débarrasser d'une consœur, l'œuvre d'un tueur en série hautement pervers et terrifiant, qualifie-t-elle au bord des larmes.
Jean-Philippe Degnaud en direct de la cour d'assises du Doubs avec Sandrine Malon, verdict attendu en fin de semaine prochaine. Le ministère de l'Intérieur dit avoir détecté récemment des activités suspectes sur son système de messagerie, une cyberattaque, mais pas de compromission grave, dit ce matin le ministre Laurent Nunez. Une enquête est tout de même ouverte et la sécurité informatique du ministère a été renforcée. On en vient à cette image très spectaculaire, cet accident hier soir à La Ciotat, une voiture de luxe qui termine sa course au fond de la piscine municipale. Ses 2 occupantes, une mère et sa fille, ont pu être sorties de l'habitacle par des maîtres nageurs, une femme et un homme. Et c'est un petit miracle, Fabien Leduc.
Oui, petit miracle parce que cette maman qui sortait du spectacle de danse de sa fille était garée en hauteur de la piscine. Elle aurait confondu marche arrière et marche avant. La Jaguar a alors dévalé une pente de 30 mètres en passant entre 2 arbres, évité un poteau, briser une baie vitrée pour finir sa course dans le grand bassin sans toucher personne alors que plusieurs nageurs étaient dans l'eau. Les maîtres nageurs ont réagi immédiatement, sans se parler, disent-ils. Ils sont parvenus, malgré la pression de l'eau qui s'engouffrait dans le véhicule, à dégager la conductrice, à détacher la petite fille à l'arrière et à l'évacuer quasiment indemne. Un acte d'héroïsme souligné ce matin l'adjoint au sport qui a mis en place une cellule psychologique pour le personnel qui était présent. La voiture, elle, devrait être sortie de l'eau dans plusieurs jours. La piscine va rester fermée jusqu'au début de l'année prochaine.
Précision ici Provence.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Pas de bougie. Pas d'invité, une communication à minima. La France fait sobre pour les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat, accord conclu le 12 décembre 2015 et par lequel 190 pays s'engageaient à limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Depuis, le contexte a changé et on sait que cet objectif ne sera probablement pas tenu. d'où la discrétion du gouvernement, discrétion qui contraste avec les associations. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Des ONG dont Greenpeace ont réuni à Paris ce matin des victimes du réchauffement climatique et parmi elles des agriculteurs.
Oui, et parmi ces témoins, un agriculteur bio venu du Togo, Anoumouko Mitodro, explique que la météo et les pluies sont devenues imprévisibles, les températures grimpent, les sols sont secs. Bref, c'est de plus en plus compliqué de cultiver le maïs, l'aliment de base au Togo.
Il faut produire le maïs pour la population. Avant, le calendrier, c'est mois de mars qu'il faut commencer à semer. Mais aujourd'hui, à cause des changements climatiques, c'est aller jusqu'à mai ou mois de juin, le calendrier pour le semis. C'est très important. Mais aujourd'hui, tout est changé. Donc, les paysans n'arrivent pas à suivre où, quand je vais semer, quand je vais récolter.
À des milliers de kilomètres du Togo, Florent Seban, maraîcher bio en Essonne, en région parisienne, s'inquiète aussi. Ce porte-parole du réseau des AMAP constate que les hivers sont de moins en moins froids.
Sur les légumes, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de froid et donc on a des ravageurs comme les pucerons ou les limaces qui viennent nous saccager certaines cultures. On en a plus qu'avant. Et sur les fruits, là c'est vraiment des pertes de production directes parce que un réchauffement hivernal fait démarrer la fructification, fait démarrer les fleurs. Et donc les fleurs subissent ensuite un gel aux alentours de mars ou avril. Et là, on peut perdre quasiment toute la production.
Et cet agriculteur s'inquiète des températures anormalement élevées en ce moment en Île-de-France pour un mois de décembre.
Merci Sandy Dauphin. Bonjour Françoise Vimeux.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes climatologue à l'Institut de Recherche pour le Développement. On parle ensemble de cet accord de Paris, 10 ans après, de ce qu'il a changé ou pas. D'abord, l'objectif des 1,5°C. Est-ce qu'on a perdu d'ores et déjà cette bataille?
Alors, en fait, pour l'objectif des 1,5°C, hein, on sait qu'on va atteindre cette température au niveau mondial dans les premières années de la décennie 2030-2040.
Normalement, c'était maintenant... fin du siècle.
Alors, en fait, oui, l'accord de Paris était de limiter le réchauffement au cours du XXIe siècle à 1,5°C, mais ça, on sait qu'on n'y arrivera pas et qu'on va atteindre cet objectif dans les quelques années qui viennent.
Qui n'a pas tenu ses objectifs depuis 10 ans, Françoise Vimeux?
Ah, je suis désolée, je vous entends très mal.
Quel pays qui n'a pas tenu ses objectifs depuis 10 ans? Qu'est-ce qui explique cette course folle?
Ah, alors en fait, c'est pas un pays en particulier, hein, c'est-à-dire que dès l'accord de Paris, on savait que les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui étaient mis sur la table n'étaient pas suffisants pour atteindre cet objectif. Et tous les 5 ans, en fait, hein, les pays devaient revoir leurs engagements à la hausse. Et en fait, les ambitions des différents pays n'ont pas été à la hauteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire qui nous emmène à un réchauffement entre 2,5 et 3 degrés à la fin du siècle.
Est-ce qu'on peut tout de même dire que 2015 a marqué un tournant ou pas? Est-ce que cela a infléchi la trajectoire du réchauffement climatique?
Oui, bien sûr. L'accord de Paris, pour moi, il est absolument essentiel. D'abord, on a donné des objectifs chiffrés pour limiter le réchauffement climatique. En 10 ans, en fait, on a quand même gagné 1 degré sur le réchauffement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, aujourd'hui, on aurait 1 degré de réchauffement en plus.
Il a servi à quelque chose, cet accord?
Il a servi, ouais. Et puis il a aussi servi au fait que tous les pays se sont dotés d'un cadre d'action pour le climat avec des engagements à horizon 2030 et pour la moitié d'entre eux, des engagements à horizon 2035. Donc oui, pour moi, il a été vraiment très utile.
Quelles sont les prévisions aujourd'hui de réchauffement, Françoise Vimeux? De combien le climat va-t-il se réchauffer par rapport à l'ère pré-industrielle?
Alors, quand on regarde la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre sur laquelle nous sommes, avec les engagements qui ont été renouvelés par les pays lors de la dernière COP, on va vers un réchauffement à la fin du siècle qui sera compris entre 2,5 et 3 degrés. Mais c'est pas écrit dans le marbre. Hein. Ça veut dire que si les engagements dans le futur sont plus forts, alors on pourra être sur des trajectoires plus basses. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on ne sera pas non plus sur des trajectoires plus hautes. Si on avait, par exemple, d'autres pays qui suivaient l'exemple des États-Unis et qui sortaient de l'accord de Paris.
2,5-3 degrés, ça vaut aussi pour la France ?
Alors non, la France se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Quand on parle d'un réchauffement de 3 degrés au niveau mondial, ça veut dire 4 degrés pour la France hexagonale. Et c'est pour ça que la France a par exemple un plan d'adaptation à un réchauffement de plus 4 degrés.
Pourquoi est-ce que le climat se réchauffe plus vite chez nous que sur la moyenne de la planète ?
Alors, il y a plusieurs raisons. C'est le cas de toute l'Europe. D'abord, les continents se réchauffent plus vite que les océans. Ensuite, la France et l'Europe perdent des surfaces enneigées, donc des surfaces blanches. Et ces surfaces sont remplacées par de la roche, par de la végétation. C'est plus sombre, ça absorbe davantage l'énergie solaire. Et puis, on voit par exemple que l'Europe du Sud, ou le sud de la France, eh bien, se réchauffe beaucoup l'été avec les vagues de chaleur. Et tout ça fait qu'en moyenne, la France et l'Europe se réchauffent environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale.
Vous parliez des États-Unis de Donald Trump. Donald Trump qui remet clairement en cause le réchauffement climatique. Paradoxalement, est-ce que ce n'est pas la Chine aujourd'hui notre meilleur allié dans ce combat ?
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, la Chine, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, elle a une trajectoire qui est en avance par rapport à ce qu'elle avait annoncé, c'est-à-dire que sur les 18 derniers mois, les émissions se sont stabilisées et la Chine dit qu'elle a atteint son pic d'émissions et qu'elle va commencer à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est le premier émetteur au niveau mondial. Mais je dirais que tous les pays sont des alliés parce que le climat n'est pas l'affaire d'un seul pays, c'est l'affaire de tous. Par exemple, il y a 200 pays au monde qui émettent moins de 2% de gaz à effet de serre comparé aux émissions globales. Et donc, si ces 200 pays ne font rien, on court à la catastrophe. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous.
Merci Françoise Vimeux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, climatologue à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Là, c'est beaucoup d'émissions de carbone, mais comment faire autrement aujourd'hui pour transporter des marchandises en grand nombre entre la France et l'Italie? Le tunnel du Mont-Blanc rouvre cet après-midi, 17h, après plus de 3 mois de fermeture totale pour travaux. Chaque jour, c'est 1 millier de camions qui empruntent cet axe stratégique. Mais la réouverture va être très temporaire, car le tunnel va refermer dans les années à venir. Et pour longtemps, Alexis Morel, les travaux qui viennent de s'achever, en fait, n'étaient que les préparatifs d'un autre chantier titanesque.
Oui, car le tunnel du Mont-Blanc a 60 ans et il faut rénover sa voûte vieillissante. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, ces 3 derniers mois, seuls 250 mètres ont été traités et le tunnel en entier fait plus de 11 kilomètres. Il s'agissait surtout cet automne de tester les techniques d'intervention avant le grand chantier qui s'annonce à l'horizon 2030. Cédric Petit-Collin est le directeur technique du tunnel.
C'est un véritable défi. Pour pouvoir réaliser ces travaux, il convient de démonter tous les équipements qui servent à assurer quotidiennement la sécurité des usagers. Ensuite, on démolit la voûte, on gère tout ce qui est venu d'eau, puisqu'on a de l'eau qui descend de la montagne, donc il faut mettre en place un système de drainage. Et ensuite, il faut reconstruire complètement la voûte.
Ça devrait coûter au moins 1,5 milliard d'euros, avec 2 scénarios à l'étude, soit une fermeture totale pendant 3 ans et demi, soit une fermeture par petite phase de 3 mois chaque année pendant 17 ans. Dans la région, transporteurs routiers comme élus locaux préfèrent plutôt la seconde option, un peu moins contraignante, même si pour le maire de Chamonix, Éric Fournier, l'essentiel est ailleurs.
Une vallée qui est à 1000 mètres et qui arrive avec un tunnel qui arrive à 1300 mètres n'est pas faite pour faire passer des centaines de milliers de camions par an. Il faut aussi qu'on ait des engagements en matière de report du trafic de la route vers le rail.
Éric Fournier, fervent soutien donc du Lyon-Turin face à l'accroissement du trafic routier et surtout pas de la solution poussée par les Italiens ces derniers mois, à savoir le percement d'un second tube routier sous le Mont-Blanc.
Merci Alexis Morel. Les absences de profs non remplacées, les parents les dénoncent régulièrement. La Cour des comptes vient de les chiffrer. 9% des heures de cours ont été perdues dans les collèges publics français en 2023-2024. C'était davantage les années scolaires précédentes. La Cour des comptes, c'est donc l'institution chargée de vérifier l'utilisation de l'argent public dans notre pays et elle va bientôt changer de patron après 5 ans et demi à sa tête. Pierre Moscovici va passer la main. Bonjour Mathilde.
Bonjour Jérôme.
Et pour lui succéder, la bataille fait rage.
Oui, Emmanuel Macron prend son temps en plus pour décider de ce poste sous pression. En interne, on nous dit même préparer si besoin l'intérim après le 1er janvier. L'enjeu pour l'Élysée est de nommer un ou une présidente de la Cour, souvent plus politique que fin technicien de la finance publique et suffisamment jeune pour ne pas être atteint par la limite d'âge pendant le prochain quinquennat. Cela permettrait d'enjamber un éventuel mandat du Rassemblement national qui serait alors privé de cette nomination stratégique.
Bon, parmi les noms avancés en ce moment, celui de Rémy Rioux, qui est directeur de l'Agence française de développement.
Oui, dernier candidat potentiel en date, Rémy Rioux, 56 ans, ancien auditeur de la Cour des comptes, ex-coordinateur de la COP de Paris, ayant aussi travaillé auprès de Pierre Moscovici en ministère. Il dirige depuis 9 ans l'Agence française de développement, en assure en ce moment l'intérim. L'AFD qui fait l'objet d'une polémique lancée par l'extrême droite, accusée de gabegie pour son nouveau siège parisien, pour ses dons aussi aux pays en développement. L'agence répond qu'elle est avant tout une banque de prêts qui se finance sur les marchés, 250 millions de résultats nets sur 10 ans, et qu'elle participe à l'effort national de réduction budgétaire. L'AFD qui, comme toute institution, fait l'objet en ce moment d'un rapport de la Cour des comptes, rapport dont on ignore pour l'heure la date de sortie.
Mathilde Dehimy, les accusations sont lourdes. L'Allemagne attribue aujourd'hui à la Russie une attaque informatique contre son système de contrôle du trafic aérien, mais aussi une campagne de déstabilisation durant les dernières élections législatives allemandes. Conséquence, Berlin convoque l'ambassadeur russe pour demander des explications. Face à cette menace, les pays d'Europe sont en train de se réarmer et ils cherchent aussi des solutions pour le faire à moindre coût. Ainsi, la Pologne discute avec l'Ukraine pour échanger ses derniers avions MiG de fabrication soviétique avec des drones ukrainiens. À Varsovie, les explications d'Adrien Sarla.
Délester Varsovie de sa flotte d'avions de chasse soviétiques, sans oublier d'en tirer le meilleur avantage pour la Pologne. C'est l'objet des tractations en cours entre le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, et les équipes de son homologue ukrainien.
On discute avec l'Ukraine d'une transmission de nos MiG-29 en échange d'un transfert de technologie de l'Ukraine vers la Pologne, par exemple dans le domaine des drones ou des missiles.
Dès l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Pologne lui avait fait don d'une grande partie de sa flotte aérienne vieillissante, flotte qu'elle renouvelle depuis à grands coûts d'investissement dans du matériel américain et coréen.
Les MiG-29 ne vont pas continuer de servir longtemps dans l'armée polonaise. Des FA-50, des F-16 ou des F-35 intègrent l'armée de l'air, donc on les remplace par une technologie supérieure.
La Pologne souhaite pouvoir s'appuyer sur l'expérience et la technologie développée à la faveur de la guerre, au nom d'une solidarité réciproque.
La relation de solidarité doit aller dans les deux sens. De la même façon qu'environ 30 000 soldats ukrainiens ont été formés en Pologne, on entend profiter d'une formation au drone. Car de tous les pays avec lesquels nous entretenons de bonnes relations, les Ukrainiens sont les meilleurs dans ce domaine.
Ces derniers mois, pas un jour ne passe sans que les services spéciaux polonais ne déjouent une tentative de sabotage, de cyberattaque ou d'attentat sur le territoire. Adrien Sarla, Varsovie. Pour France Inter.
C'est un héros du sport argentin, mais manifestement il fascine aussi en Inde. À Calcutta, des fans indiens de Lionel Messi viennent de construire une statue haute de 21 mètres à la gloire de leur idole. Messi brandissant la Coupe du Monde, ce n'est pas l'image qu'on préfère évidemment en France. L'Argentin débute demain une tournée triomphale de 3 jours en Inde. France-Allemagne, c'est un classique du sport à l'affiche ce soir. Demi-finale des championnats du monde pour les handballeuse française, ça se passe aux Pays-Bas, à Rotterdam, et les Bleus sont tenantes du titre. Bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez le parcours de ces joueuses françaises pour nous. Jean-Pierre, il y a eu un moment charnière dans ce parcours. Ces derniers jours, c'était en début de semaine, après une défaite, les joueuses se sont réunies sans leurs entraîneurs. Racontez-nous.
Alors les Bleus ont pris l'habitude de ce genre de réunion, en général une fois par compétition. Cette fois, c'est à l'initiative de capitaine Tamara Horacek. Après la défaite quand se face aux Pays-Bas, le principe, c'est sans aucun membre du staff d'ailleurs qui n'en prend pas ombrage. C'est un moment d'envisager les ajustements tactiques, mais aussi où les cadres réconfortent et rassurent par exemple celles qui ne jouent pas beaucoup. Certaines laissent vraiment échapper leurs émotions à tel point qu'il y a toujours des pleurs. C'est ce que nous a confié Méline Nocandi.
Méline Nocandi.
Il y en a qui parlent de leur expérience. D'autres disent je me sens pas bien, ou là je suis pas en confiance, ou j'ai du mal à me retrouver, ou au contraire je vais très bien. C'est là où on se livre le plus sincèrement possible. Et si on n'est pas sincère, on sort pas de la salle. Il y a toujours des pleurs à cette réunion-là. On est qu'entre nous, donc on peut parler. Je vous dirai pas s'il y en a une qui va pas bien ou pas.
Et c'est naturel. Hein. Les joueuses nous ont dit qu'elles avaient besoin de ce genre de réunion pendant laquelle chacune doit parler au moins une fois.
Bon, on a la méthode. Le résultat maintenant avec vous, Jean-Pierre. Est-ce que les Bleus sont favorites ce soir face aux Allemandes ?
Oui, on peut le dire, car les Allemandes ne sont pas aussi souvent dans le dernier carré que les Françaises, parce que les Bleus aussi restent sur un quart de finale magnifique contre le Danemark, alors que les Allemandes se sont fait un peu peur contre les Brésiliennes. Attention, hein, elles sont invaincues, elles ont tout gagné. C'est vrai, en ayant joué chez elles la première partie de la compétition qui était aussi organisée en Allemagne.
Merci Jean-Pierre Blimaud. En direct de Rotterdam, la liaison a tenu. Le direct France-Allemagne, 17h45, ce soir sur la chaîne française TFX. Autre demi-finale, la deuxième. Pays-Bas-Norvège, la finale dimanche, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Magali Rochereau. Puis à partir de 13h30, la directrice générale du parc Astérix avec nous. Nous parlons prix, fréquentation, nouvelles attractions, 01 45 24 7000. Pour être avec nous, 13h45, un dernier tour avec notre patrouilleur sur l'autoroute département du Gard. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous allez nous faire écouter un drôle de son.
Oui, les glaciers fondent à une vitesse que l'on peine à imaginer. Mais avant qu'ils ne disparaissent complètement, des artistes captent leur souffle, leur craquement, leur mémoire. Aujourd'hui, on explore ce que la création peut révéler de cette fragilité.
Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Oui, nous irons à la rencontre de Diane Tell, qui sortira un nouvel album l'an prochain. Et avec elle, c'est une chanson de Françoise Hardy que nous écouterons. Une balade mélancolique que Diane Tell aimerait beaucoup reprendre un jour.
Merci à tous les deux et à toutes à l'heure.
Dans Mon vrai nom est Elisabeth, Adalion dévoile le destin bouleversant de son arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène dans les années 50. À partir d'archives et de souvenirs familiaux, elle part en quête d'un passé tenu sous silence. Salué par la critique, ce premier livre éblouissant est un récit puissant sur la psychiatrie, la transmission et les violences faites aux femmes. Déjà plus de 200 000 lecteurs et lectrices se sont reconnus dans son histoire. Et vous ? Mon vrai nom est Elisabeth, aux éditions du Sous-Sol.
Les guerres et les destructions génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les populations sont en danger. Pour secourir et reconstruire, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Leur action dépend de votre soutien. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr.
France Inter, partenaire de deux expositions d'artistes contemporaines majeures au Grand Palais. Eva Jospin vous invite avec Grotesco dans un parcours foisonnant de forêts, de grottes et d'architecture imaginaire. Avec D'un seul souffle, Claire Tabouret dévoile les coulisses d'un projet monumental, les travaux préparatoires des 6 futurs vitraux pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Deux expositions accessibles avec un seul billet, à découvrir jusqu'au 15 mars, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Jérôme.
La perturbation perd en vigueur, elle donne de moins en moins de pluie.
Et oui, cet après-midi, les pluies restent quand même consistantes sur le sud de la Bretagne, mais elles s'affaiblissent en remontant vers le Cotentin, toujours sous les grisailles. Des Pays de la Loire en remontant vers les frontières belges, le Luxembourg et le nord de l'Alsace, les nuages sont bas et le gris persiste également. Mais au sud de l'Île-de-France, on pourra quand même apercevoir le soleil aujourd'hui. Et ça, jusqu'au nord de la Bourgogne, en passant par le Poitou-Charente et jusqu'au littoral aquitain. Au sud de la Diagonale, Strasbourg, Biarritz, c'est bien ensoleillé aussi, sauf du côté du Val-de-Saône. Et côté pourtour méditerranéen, les entrées maritimes couvrent votre ciel, notamment au-dessus du Languedoc-Roussillon et sur une partie de la Provence, accompagnée peut-être même de quelques gouttes.
Et des températures douces ?
Et oui, surtout dans le sud, à la faveur de l'ensoleillement, comptez sur 16 degrés à Toulouse comme à Perpignan et 18 degrés à Marseille. Dans le nord du pays, Météo France prévoit encore 3 à 5 degrés au-dessus des valeurs. Vous aurez 12 degrés à Chartres, 13 à Nantes, comme dans la capitale pour votre après-midi.
Magali Rochereau.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Delphine Ponce.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directrice générale du parc Astérix, le parc implanté depuis 1989 à 35 km au nord de Paris, en Picardie, département de l'Oise. 2 900 000 visiteurs accueillis sur la saison 2024-2025. Deuxième parc d'attractions français à égalité, je crois, avec le Puy du Fou et derrière le parc Disneyland. Ça marche bien donc, à tel point que vous venez d'annoncer l'ouverture d'un parc à l'étranger, près de Leipzig, en Allemagne. Ce sera le premier à ouvrir hors de nos frontières. Ça, ce sera pour 2028.
Alors, sur le parc Astérix Allemagne, puisqu'on commence comme ça, en fait, la Compagnie des Alpes, qui est la maison mère du parc Astérix, a acheté il y a quelques mois un parc en Allemagne, qui s'appelle Bellantis, qui est déjà propriétaire de la Compagnie des Alpes, et que la Compagnie des Alpes a décidé de transformer en parc Astérix. Et donc, la transformation en parc Astérix débute dès cette saison 2026, avec une première zone qui va s'appeler une zone consacrée à idées fixes, avec des divertissements pour enfants. Et puis, au fil des ans, le parc va se transformer progressivement en parc Astérix avec une dénomination officielle en parc Astérix Allemagne autour de 2028-2029.
01 45 24 7000, vous qui nous écoutez pour intervenir, pour vos questions, vous passez également via l'onglet réagir de l'application Radio France. On a effectivement commencé, Delphine Ponce, à parler de ce parc en Allemagne qui petit à petit va se transformer. Quand vous l'avez annoncé il y a quelques semaines, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il aurait fallu le faire plus tôt, ce parc, compte tenu du succès d'Astérix, de ce personnage à l'international.
Alors, il était logique que le premier parc Astérix soit localisé en France. Puisque comme vous le savez, l'univers Astérix est un univers français.
C'est vrai.
Alors, effectivement, c'est un projet qui est dans les cartons depuis plusieurs années, fait de créer un nouveau parc Astérix. Encore faut-il trouver le bon emplacement, le bon parc. C'est pas évident aujourd'hui de construire un parc Astérix from scratch.
De rien,
voilà, parce que c'est des gros investissements, parce qu'il faut trouver le foncier, il faut avoir les autorisations environnementales.
Il peut y avoir des oppositions aussi environnementales, vous tenez compte de ça, des mobilisations parfois qui se font jour.
Oui, il peut y avoir des mobilisations et c'est bien normal. Aujourd'hui, tout projet est soumis à étude d'impact environnemental, ce qui va dans le bon sens. Et en ce qui concerne l'Allemagne, en fait, l'Allemagne, c'est le deuxième marché d'Astérix après la France. Donc en Allemagne,
pour les bandes dessinées,
oui, pour les bandes dessinées et pour toute la licence Astérix et Obélix.
D'accord.
Donc en Allemagne, Astérix et Obélix sont très populaires, très plébiscités par les Allemands, et donc il était assez naturel de créer un parc Astérix en Allemagne.
Pourquoi le choix de l'ex-Allemagne de l'Est?
Alors, on est sur une localisation géographique qui est quand même assez intéressante. On est à forte proximité de Leipzig et on est à 1h30 de Berlin. Donc en fait, on a plutôt que de choisir l'ex-Allemagne de l'Est, on a choisi une zone de chalandise qui nous paraissait assez porteuse, avec finalement assez peu de concurrence, et donc un potentiel de développement qui nous semble totalement avéré.
Les Allemands sont des gros consommateurs de parcs d'attractions,
oui.
plus que les Français ?
Je ne saurais pas vous dire, mais ils sont gros consommateurs de parcs d'attractions. Il y a beaucoup de parcs d'attractions en Allemagne.
900 000 visiteurs par an, c'est l'objectif. Vous avez commencé à le dire, Delphine Ponce, le parc Astérix est propriété de la Compagnie des Alpes. C'est ça qui possède des stations de ski,
oui.
qui exploitent aussi d'autres parcs.
Oui, la Compagnie des Alpes, c'est un acteur européen majeur dans le domaine des loisirs, avec l'exploitation de grands domaines skiables dans les Alpes. Hein, vous les connaissez Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, Serre Chevalier, et également l'exploitation de parcs de loisirs en France et en Europe, avec le parc Astérix, hein, je vais le citer, mais également le Futuroscope, les parcs Walibi, un parc qu'on a acquis il y a quelques années en Autriche qui s'appelle Family Park, et le musée Grévin, qui n'est pas un parc d'attractions, mais qui fait également partie du portefeuille de la Compagnie des Alpes.
Ça veut dire qu'on échange des informations, il y a des systèmes qui sont comparables au Futuroscope et au parc Astérix, par exemple, ou des choses qu'on teste à un endroit, qu'on développe ensuite ailleurs. Vous travaillez vraiment ensemble ?
Oui, on fait partie d'un même groupe, et c'est vrai qu'on se parle beaucoup entre parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes, sur des sujets d'investissement, de nouveautés, de satisfaction visiteur, qui est vraiment le leitmotiv des parcs d'attractions ou de gestion de flux. Mais de façon globale, on se parle également beaucoup avec les parcs de loisirs européens, parce que c'est quand même un petit milieu et on se connaît tous.
Pour revenir à la France, Delphine Ponce, j'ai dit presque 3 millions de visiteurs la saison dernière. Quel est votre objectif pour cette saison 2025-2026?
C'est évidemment de faire plus, puisque le parc Astérix, comme vous le savez, est dans une super dynamique de progression. Hein. C'est vrai que chaque année, on accueille de plus en plus de visiteurs. Cette année, on est à 2,9 millions. Il y a 10 ans, on était à moins d'1,8 million. Donc, chaque année, on gravit une...
Un million de plus en 10 ans, un peu plus d'un million de plus en 10 ans.
Plus d'1 million de plus en 10 ans, donc c'est beaucoup. Et donc, l'objectif, c'est de poursuivre cette dynamique de progression, évidemment, et de continuer à accueillir de plus en plus de visiteurs dans de bonnes conditions d'expérience. Et c'est la raison pour laquelle on développe la capacité de divertissement, de restauration et d'hôtellerie du parc.
Avant de parler des investissements, ces visiteurs, ils viennent d'où ? Et même d'ailleurs ceux qui vous ont rejoint.
Alors ces visiteurs, ils évoluent aussi. Le visitorat, il évolue. C'est-à-dire que il y a 10 ans, on était sur un visitorat essentiellement proximité. Aujourd'hui, grâce à nos 3 hôtels et à un 4e en construction, on accueille de plus en plus de visiteurs étrangers et de plus en plus de visiteurs qui viennent de régions françaises un peu plus éloignées.
Les tarifs, c'est une 50aine d'euros, c'est ça, hein, un peu plus de 50 euros par personne. C'est ce que j'ai vu là pour les fêtes de Noël.
Pour les fêtes de Noël, on est sur un tarif unique adulte-enfant, donc l'adulte au prix de l'enfant à 55 euros.
C'est des tarifs qui ont évolué, qui ont augmenté récemment ou pas ?
Oui, c'est des tarifs qui évoluent chaque année sur la base de l'inflation. Et puis sur la base également de l'expansion du parc, de l'extension du parc et des divertissements additionnels qu'on propose à nos visiteurs.
Combien ça coûte de passer une journée chez vous en dormant à l'hôtel, puisque c'est aussi votre objectif ?
Bah écoutez, aujourd'hui on a 3 hôtels qui ont des gammes différentes. Et aujourd'hui, sur un séjour, une journée au parc et une nuit à l'hôtel, on est sur des tarifs qui démarrent à 70 euros par personne.
Avec l'entrée et la nuit.
Absolument.
L'entrée et la nuit pour une seule personne.
Pour une seule personne.
Christian est en ligne avec nous, je crois. Bonjour Christian.
Bonjour à tous les deux.
Nous vous écoutons.
Écoutez, je voulais revenir, alors non pas au temps des Gaulois, ni me projeter au temps germanique, mais à une période intermédiaire, 1992, madame la directrice, le parc Astérix avait une initiative bien particulière, créer sa propre radio, qui à l'époque, je ne sais pas si elle existe toujours, portait le nom de Menhir FM. L'enjeu était évidemment de décliner à la mode gauloise toute l'actualité et les autres problèmes, on va dire, de transport et d'arriver au parc Astérix, tout en vantant le mérite de toutes les animations et autres spectacle qui était proposé. Et j'ai également participé au Tour de Gaulle à l'époque, qui se concentrait essentiellement sur la France actuelle. Évidemment, l'idée étant de faire la promotion en province, entre guillemets, du parc Astérix. Alors, je ne sais pas si ces deux formules de promotion existent toujours.
Merci Christian pour votre appel et de nous avoir rappelé des souvenirs. La communication Delphine Ponce en 2025, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous travaillez ?
Alors, on a plusieurs voies de communication. Pour répondre à votre question, c'est vrai que cette idée de radio gauloise n'a pas perduré et elle date effectivement de 1992. Et à l'époque, j'étais pas encore aux manettes du parc Astérix. Mais c'est vrai qu'en termes de communication, on est sur la communication assez traditionnelle. Hein. En ce moment, vous voyez beaucoup d'affiches Noël gaulois dans Paris et en France. Communication radio, communication TV. On utilise également beaucoup ce qu'on appelle les relations presse, c'est-à-dire qu'effectivement, le parc Astérix a 3 grands événements dans l'année, la saison qui commence d'avril et qui se termine à la fin de l'été, mais aussi Peur sur le parc où le parc est transformé en mode Halloween et Noël, et à l'occasion de chacun de ces événements, pour présenter le produit et pour présenter nos nouveautés, on invite pas mal de journalistes. Effectivement, les influenceurs sont également des vecteurs de communication.
Il y a des influenceurs parc d'attractions ?
Absolument, il y a des fans de parc d'attractions. Il y a des fans de parc d'attractions qu'on connaît bien et qui sont des interlocuteurs super intéressants quand il s'agit de tester une nouveauté ou de juger une nouveauté. Donc on passe évidemment beaucoup par les réseaux sociaux. Et puis, de façon plus globale, on a à cœur de délivrer une expérience très satisfaisante. Et c'est aussi le bouche à oreille qui fait la communication du parc Astérix.
Vous venez d'en dire un mot, Delphine Ponce, les événements et les ouvertures du parc. Mais le parc ferme quelques semaines par an. Vous fermez le 5 janvier pour rouvrir fin mars. Est-ce que vous ne réfléchissez pas à ouvrir davantage, voire même toute l'année ? C'est le cas de Disneyland.
Alors, on réfléchit à ouvrir davantage et on a déjà beaucoup étendu notre calendrier d'ouverture, puisque au début du parc Astérix, le parc Astérix était saisonnier, c'est-à-dire qu'il était ouvert du début des vacances de Pâques jusqu'à la fin des vacances d'été. Et puis, il y a 12 ans, on a créé ce produit de Peur sur le parc qui surfe sur la vague d'Halloween et qui est un produit
vraiment très très singulier pendant cette période-là. On met un peu de côté l'univers d'Astérix et Obélix pour laisser la place aux maisons hantées, aux scare zones, aux spectacles horrifiques. Donc ça, c'est déjà une extension. En 2019, on a ouvert pour la première fois le parc Astérix à Noël, sur les vacances de Noël. Donc on a déjà étendu le calendrier.
Et les vacances de février, par exemple, vous y réfléchissez ?
Et les vacances de février, on y réfléchit.
D'accord. Ça sera peut-être dans le cadre des investissements que vous venez d'annoncer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces 250 millions d'euros d'ici 2030 ?
On veut faire beaucoup de choses. C'est vrai que l'objectif, c'est de pouvoir continuer à délivrer une expérience très satisfaisante à nos visiteurs qui viennent de plus en plus nombreux. Donc on veut développer la capacité de divertissement.
Plus d'attractions ?
Avec plus d'attractions. Avec toujours, nous, quand on réfléchit à une attraction ou à un spectacle quand même, parce qu'il y a attraction et spectacle au parc Astérix, ce qu'on souhaite, c'est proposer un divertissement qui soit unique, qui soit différenciant, qui offre des sensations inédites.
Ça veut dire vous agrandir, pardonnez-moi, ou sur le même périmètre ?
Alors, ça dépend des questions. Sur les divertissements, on va rester sur le même périmètre. En revanche, on a encore du foncier disponible au parc Astérix qui va nous permettre de construire un nouvel hôtel qui est actuellement en construction, qui sera le 4e hôtel du parc Astérix, un grand hôtel de 300 chambres avec un grand centre de séminaire qui va s'appeler l'Odyssée Hôtel, donc en rapport avec l'album l'Odyssée d'Astérix, et qui va être un hôtel comme on fait tous les hôtels au parc Astérix, très immersif, très thématisé, avec plusieurs quartiers, un quartier mésopotamien, un quartier égyptien, un quartier perse, un quartier phénicien. Et cet hôtel est sur un foncier disponible au parc Astérix.
Est-ce qu'il y aura des investissements sur l'accessibilité ? On est 10 ans après l'accord de Paris, on a beaucoup parlé des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. On peut pas venir en train jusqu'au parc Astérix, on vient en voiture ou en RER, puis en navette. Est-ce qu'il y a une réflexion de ce point de vue-là pour baisser l'empreinte carbone ?
Alors, il y a une réflexion globale pour baisser l'empreinte carbone au parc Astérix. On a pour ambition d'être à net zéro carbone à horizon 2030 sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par le parc Astérix. On les a diminuées de 65% depuis 2019. On est à 100% d'électricité verte. On a modifié toute notre flotte de véhicules pour être en véhicule électrique ou en biocarburant. On mène des actions pour cette sobriété.
Mais l'immense majorité des visiteurs viennent en voiture.
Et en effet. Et le parc Astérix, comme vous le savez, n'a pas une gare de RER au pied de l'entrée du parc Astérix. Je vais pas vous mentir, c'est très très compliqué aujourd'hui de développer un réseau ferroviaire qui nous amènerait à avoir une gare de RER au pied du parc Astérix. En revanche, on travaille sur cette question d'accessibilité pour connecter des navettes aux principaux hubs de transport qui existent
davantage
en région, ouais. Davantage. Donc là, il existe une navette qui parle de Charles de Gaulle 1 et dont on a augmenté la fréquence. Elle part maintenant toutes les 15 minutes, donc ça crée moins de ruptures. Et on réfléchit ardemment avec les collectivités territoriales à d'autres navettes qui pourraient partir de Saint-Denis-Pleyel, qui est quand même un gros hub de transport en région parisienne, ou de la gare de Survilliers.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Delphine Ponce, directrice générale du parc Astérix, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, 5 jours avec un patrouilleur d'autoroute. C'est notre dernier rendez-vous avec Alain Munda sur l'autoroute A9. Aujourd'hui exceptionnellement dans l'Hérault, où c'est l'heure de la pause. Un café sur l'aire d'Ambrosson, l'occasion pour lui de faire des rencontres.
On peut boire un café tranquille, je vais juste prévenir le PC que je prends ma pause. Ouais, c'est Alain. Tu peux m'appeler sur le portable, je vais prendre ma pause sur Ambrosome. Donc si jamais tu as quelque chose, tu m'appelles sur le portable, s'il te plaît.
Ah, ok, pas de
soucis. Ok, je te remercie. Americano. Ouais, Americano. Quand je m'arrête sur les aires de repos ou les aires de service, moi je suis quelqu'un de très sociable, donc je vais parler un petit peu aux gens. Des fois, quand je vois la plaque d'immatriculation ou quand ils partent au ski, avec les skis, ah, vous allez où ? Enfin voilà, j'essaie d'interagir pour discuter avec eux. Mais en général, des fois, c'est les clients des fois qui viennent vers moi, me parler, pour savoir hein, qu'est-ce que vous faites, enfin voilà, qui s'intéressent au métier. Ouais.
Les patrouilleurs, quand on est sur la route, on ne pense pas forcément à eux. Il y a la signalétique quand même qui nous le rappelle bien. Et quand on a une problématique, par contre, soudainement, on pense à eux. Je m'appelle Amandine.
Vous êtes déjà arrivé, vous, d'être en lien avec eux ?
Oui, panne d'essence sur l'autoroute. Et on avait trouvé une borne et ils étaient venus aussi, ouais. Ah ouais, heureusement qu'ils sont là, ouais. On en a besoin.
Donnez la main. Tous les deux, il y a les voitures.
Ça, c'est sa voiture, monsieur.
C'est le fourgon.
Grosse voiture, hein.
Énorme.
C'est sûr que moi, quand j'entends des personnes qui parlent de nous comme ils ont pu le faire, c'est sûr que c'est très revalorisant, ça. Et ils nous comparent souvent aux pompiers. Donc je suis entièrement d'accord avec eux, hein, parce que c'est vrai qu'on est là pour aider les gens. Et des fois, on peut tomber sur des interventions ou sur des accidents qui sont assez important, et c'est vrai que ça peut être traumatisant. Voilà.
Bah, faut avoir du courage à tout niveau. C'est risquer sa vie pour, je suppose, un salaire qui doit pas être terrible. Bah, Jean-Luc Duvar.
Bonjour, Régine Duvar. Bah, ils sont là vraiment pour, entre guillemets, nous protéger des dangers qu'il peut y avoir sur la route, des obstacles, des animaux.
On ne les voit pas, mais je crois qu'on a tellement une lassitude au volant, une fatigue, qu'arrivé à un moment, des fois, quand on les voit, c'est des fois presque trop tard, ou trop tard même. C'est vrai, l'autoroute, c'est sympa, mais on somnole des fois à moitié, quoi. On les voit pas parce que on les méprise, mais on les voit pas parce que c'est tellement une lassitude.
À la limite, c'est un peu comme les pompiers qui doivent intervenir. Pour moi, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est vraiment l'autoroute et psychologiquement, ça doit être très dur aussi.
Bien sûr,
non, mais c'est pour ça que...
Voilà.
Donc, quand c'est le cas, des gros accidents avec plusieurs véhicules où malheureusement il y a des personnes qui sont décédées, on est bien content quand c'est les pompiers qui arrivent avant nous.
Vous retrouvez ce feuilleton La vie d'un patrouilleur sur l'application Radio France, cette vie mise en lumière et en onde par Luc Chemla et Vincent Godard pour la réalisation.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le vendredi 13h50, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, 10 ans jour pour jour après l'accord de Paris sur le réchauffement climatique, vous nous parlez de la bande-son en montagne de ce réchauffement.
Au creux des cimes, il y a les abîmes, les glaciers, immenses masses de glace nées de couches de neige qui s'entassent et se compactent sous leur propre poids, racontent l'évolution de notre environnement. Indispensables aux écosystèmes comme aux humains, ils disparaissent sous l'effet du réchauffement planétaire. Leur recul est un danger majeur, ces géants bleutés régulent le climat et alimentent le cycle de l'eau. Moins de glace, c'est moins d'eau pour les populations. Dans ces corps millénaires, on lit la fragilité de la montagne, ses cicatrices, cette finitude minérale dont la beauté devient peu à peu plus triste.
Que ressent-on face à un glacier qui recule ?
À la mer de glace à Chamonix, on croise des visiteurs en pèlerinage, venus spécialement constater ce qui meurt. Ce n'est pas la nostalgie d'un passé idéalisé, mais la détresse de voir disparaître ce que l'on croyait durable. Dans les Alpes, beaucoup développent ce qu'on appelle un sens du lieu, une identité ancrée dans une géographie à la fois physique et culturelle. Quand cet environnement se dégrade fortement, naît la solastalgie, une désolation, un trouble identitaire, comme si la montagne entraîner une part de nous dans son recul. Ce vertige n'appelle pas des remèdes médicaux, mais une réaction. Glenn Albrecht, le philosophe australien qui a forgé son concept, rappelle dans son livre « Les émotions de la Terre » que nos comportements face à la crise écologique dépendent d'abord de ce que nous ressentons.
Et voilà pourquoi un collectif d'artistes a souhaité faire entendre au plus grand nombre la voix des glaciers.
Exactement, Jérôme. Pour toucher un public plus large, l'agence Monstre a présenté cette semaine à Paris la voix des glaciers. Un vinyle entièrement façonné en glace, réalisé à partir de l'eau de la mer de glace et qui fond forcément pendant sa lecture. L'objet a été imaginé par l'artiste Barthélemy Antoine Louf, qui se présente lui-même comme un éleveur d'iceberg. Et quand on pose l'aiguille sur ce disque fragile, voilà ce qu'on entend. Les sons captés au cœur des glaciers grâce au travail incroyable du musicien Aurélien Buiron, alias Ghost in the Loop, qui enregistre leurs craquements et leurs mélodies intimes. Flavien Berger s'est également associé au projet et Moziman prête sa voix pour incarner celle du glacier. Chaque note de piano est mise en relation avec les données scientifiques et traduit la hauteur de la mer de glace des années 80 à aujourd'hui. Et il faut avouer que face à cette voix qui s'éteint peu à peu, nous sommes frappés de mélancolie.
Jusqu'où une voix peut-elle porter dans un monde qui fond ?
Ici, la voix du glacier fend l'air et vient teinter tout près de nos tympans. Une voix cristalline qui va au cœur. Elle ouvre une conscience plus large, touchée par une beauté qui s'échappe. L'écoute devient participation. L'auditeur se trouve à la fois témoin, victime, responsable et mémoire de la perte. Et la disparition de cette voix paraît scandaleuse. Art et science se complètent, la science établit des faits, l'art crée une émotion qui nous relie à eux. Rendre possible de nouveaux imaginaires, nous rassembler, c'est le propre d'une œuvre, et celle-ci, la voix des glaciers, nous pousse à agir. Chacun peut le faire à son échelle, car le combat se joue aussi dans ce qui continue de battre en nous quand la montagne se tait.
Merci Virginie Troussier, chaque vendredi dans ce 13-14, puisque vous êtes membre du jury du prix Jules Rimet, sport et littérature. Je précise et j'annonce que le lauréat 2025 de ce prix est Jean-Paul Vespini pour son ouvrage Zola à bicyclette, que nous recommandons bien évidemment. De C'est la France et sans bicyclette. Ah, c'est une chanson. C'est la chanteuse québécoise Diane Tell qui est aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Diane Tell qui fêtera en 2027 ses 50 ans de carrière et qui sortira l'an prochain Polisson, son 15e album, un album au texte coquin, dont elle a déjà dévoilé un premier titre, Le mot et la chose. Et c'est de Françoise Hardy qu'elle a souhaité parler. Elle l'aimait beaucoup et toutes les deux se sont fréquentées durant plusieurs années.
Lorsque je suis arrivée à Paris, j'ai eu la chance d'être invitée dans son émission de radio, puisqu'elle faisait de l'astrologie, si vous vous souvenez. Et donc, elle a fait mon ciel. Et puis, à l'issue de l'émission, j'ai dit « Madame, est-ce que vous avez lu dans mon ciel qu'on allait se revoir ?» Et là, elle m'a regardée avec son air, tu sais. Elle avait toujours un peu un air comme ça, pas contente. Et elle m'a donné son numéro de téléphone. Alors, je suis allée chez elle, et puis j'ai passé de très bons moments avec elle. Et à l'époque, elle n'avait pas écrit pour d'autres artistes encore. Je lui ai demandé si elle était d'accord d'écrire pour moi quelques textes ou si elle avait des textes qui n'avaient pas encore trouvé leur musique. Elle m'a tout de suite donné « Faire à nouveau connaissance ». Évidemment, j'ai composé tout de suite une musique là-dessus.
Donc là, on est au milieu des années 80.
Oui, et on gagne une victoire de la musique avec cette chanson. Après, on s'est revus un peu, mais moins, parce que j'étais plus à Paris et que je suis un peu sauvage. Et elle aussi. Voilà.
Mère, mon cœur pèse des tonnes et mon corps s'abandonne si léger à la mer. La mer pleure ces vagues qui ont un goût de l'âme et s'en vont éphémères. Se perdre en la terre, se fondre à la terre.
Cette chanson, Frédéric, c'est donc Mère, sortie en 1971.
Oui, sur le 11e album de Françoise Hardy, et elle occupe une place de choix dans le cœur de Diane Tell.
Mère est une chanson très importante pour moi, d'abord et avant tout parce que j'aime cette chanson. Elle est tellement belle, la musique est sublime, les paroles aussi, et l'interprétation, la production, enfin tout est parfait. Mais c'est particulier pour moi parce que lorsque je fréquentais assez régulièrement Françoise, j'étais chez elle un après-midi, on buvait du thé, on parlait musique, elle me faisait entendre toutes ces nouvelles découvertes. Et à un moment, elle me dit « je vais t'offrir un album ». Et elle va me chercher cet album qui aujourd'hui s'appelle « La question ». Et elle m'offre le vinyle et elle me dit « voilà, je t'offre mon album préféré de toute ma discographie ». Et ça, ça m'a éblouie parce que, bon, j'avais jamais vu cette pochette. Je connaissais beaucoup de chansons de Françoise Hardy, mais j'avais jamais vu cet album adoré de Françoise, bien perçu par les médias, mais qui n'a pas du tout marché.
Dans la mer, magique, originelle, dans son rythme essentiel, je voudrais que la mer me reprenne pour renaître ailleurs que dans ma tête, ailleurs que sur la terre.
Cette chanson, c'est une chanson mélancolique. Est-ce que quand vous l'entendez, elle vous emplit de mélancolie ?
Oui, oui, elle me touche directement au cœur, au corps. quand j'entends cette chanson, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et j'ai envie de me prendre un verre de vin et puis voilà, de repenser ma vie, les larmes aux yeux. Même là, en y pensant, j'ai les larmes qui me viennent, voilà. Ouais, c'est vraiment une chanson qui m'habite, ouais. Voilà, elle est à moi. Elle est à moi, cette chanson. Elle est pour moi.
Et la vague dans ses joues puis se brise. Et la mer tout à coup devient grise.
Là, effectivement, vous êtes bouleversée.
Mm-hmm.
Elle vient toucher quoi, cette chanson, pour que ça vous bouleverse à ce point?
Je pense que c'est la beauté. Elle me touche aussi en tant qu'artiste, à dire cette chanson, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art. Ça pourrait être un tableau, ça pourrait être une sculpture, ça pourrait être un film. C'est une œuvre d'art complète, terminée, finie. On n'y touche plus. Sauf si je la refais un jour. Mais si je la refais un jour, je vais essayer de la faire le plus pareil possible. Mais je peux ne pas la faire. Je peux juste l'écouter, ça me suffira.
Si vous la reprenez, ce serait un hommage à Françoise Hardy.
Certainement, oui. Cette Françoise Hardy, qui est la pure Françoise Hardy, pure, pure, pure. Du 24 carats Françoise Hardy, là.
Mère Françoise Hardy, c'était donc Frédéric, le choix de Diane Tell.
Diane Tell, dont le nouvel album Polisson paraîtra à l'automne 2026.
Merci Frédéric et à lundi, au rythme de Mère, le générique de cette semaine de 13-14. À la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Sonia Princé, Sébastien Sabiron, assisté de Sylvain Lesage, Nicolas Sabat, Rachid Zourdani et Swad Bellani. À la technique, Julien Dumont, Loïc Frapsos, Paola Collin et Thomas Allard. Attaché de production, Camille Poux, Jalaguet, Cyrine Benyounès et Joseph Ascal. Je n'oublie pas nos standardistes. Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire à suivre.